Donc bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus à notre deuxième soirée sur la laïcité. On va avoir la mémoire un peu longue pour se souvenir de la première. Ça remonte à quelques années où nous avons parlé des précurseurs de la laïcité parmi les chrétiens protestants du XVIIe siècle. Mais là, nous sommes dans l'actualité. Vous savez aussi bien que moi qu'on impose certaines choses au nom de la laïcité, on exclut certaines choses au nom de la laïcité, et 11 personnes qui s'intéressent beaucoup à l'actualité de demain ont donné chacune leur version de l'avenir de la laïcité dans notre pays. Mais en fait, c'est quoi la laïcité? C'est ce que nous allons voir ce soir. Je précise juste que les exposés seront enregistrés, les discussions ne le seront pas, et que nous souhaitons qu'il n'y ait pas de photographie ni de film pris de notre soirée. C'est plus commode pour les invités qui vont parler. Donc, c'est quoi la laïcité? Il y a un dicton en français qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous restent assez ignorants des lois de façon générale. Et c'est pour ça que notre premier invité de ce soir, c'est quelqu'un qui connaît bien les lois. Sherline Louessin a une formation d'avocate. Elle n'a pas exercé comme telle comme avocat, elle n'a pas plaidé si je comprends bien, mais entre autres, elle a travaillé au Centre européen pour le droit et la justice à Strasbourg, et c'est elle qui va parler la première pour nous aider à voir plus clair sur la question quelles sont les lois qui utilisent le mot laïcité ou laïque, et j'espère qu'elle va répondre à une question de plus, parce que les mots laïcité et laïque sont les mots positifs, on est pour, c'est une bonne chose. Le mot prosélytisme, par contre, est souvent présenté comme un mot négatif, une chose qu'il ne faut pas faire. Alors, qu'en est-il, Charline, s'il te plaît, des textes de loi sur la laïcité, les laïcs, le prosélytisme et tout et le reste? Merci.
Bonsoir à tous. Donc, je vais essayer de vous apporter quelques informations sur la laïcité. Comme l'a dit Bob, c'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment. Mais souvent, on se dit, bah, finalement, qu'est-ce que c'est que la laïcité? Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que la loi dit par rapport à la laïcité. Donc, la diapo va commencer. Donc, d'abord, la laïcité, c'est un terme qui est cité dans notre Constitution de 1958. Et donc, c'est l'article 2 qui prévoit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. » Elle respecte toutes les croyances. Donc, la Constitution, déjà, utilise ce terme de laïcité, mais on n'a pas de définition en tant que telle. Donc, même si on n'a pas de définition de la laïcité, le texte de référence par rapport à la laïcité, c'est la loi de 1905, que vous devez connaître, de séparation de l'Église et de l'État. Et donc, cette loi, dans son article 1, prévoit... La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Donc ça veut dire que chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Donc l'État doit garantir que chaque personne puisse croire en ce qu'il veut, puisse avoir sa propre opinion. Donc c'est vraiment la possibilité pour chacun de croire, voilà, ce qu'il veut. Mais la laïcité s'applique uniquement à l'État en tant que tel. Ça veut dire qu'un individu n'est pas tenu de se restreindre dans ses croyances. On a quelques restrictions, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est la liberté de pouvoir croire. La seule distinction pour les individus, c'est des agents de la fonction publique, parce qu'à partir de ce moment-là, ils ne sont plus des individus en tant que tels, mais ce sont des représentants de l'État, donc ils sont tenus aussi à la neutralité religieuse. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs croyances dans une religion. Donc on va voir maintenant que l'expression de la foi est garantie par plusieurs droits, donc que ce soit des droits nationaux ou internationaux, l'expression de la foi est vraiment protégée à plusieurs niveaux. Donc ce qu'on voit ici, donc, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, donc l'article 10. Donc la Convention européenne des droits de l'homme, on va dire que c'est une loi qui est au-dessus même de nos lois françaises. Donc la Convention européenne prévoit plusieurs libertés fondamentales, et notamment par rapport à la liberté d'expression. Donc cet article 10, c'est vraiment la référence concernant la liberté d'expression. Donc il prévoit « Toute personne a droit à la liberté d'expression ». Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir, donc de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique. Donc ça veut dire qu'on a le droit de recevoir des informations, mais aussi d'en donner sur ce qu'on veut. Donc les opinions qu'on a, donc on peut avoir des opinions, qu'elles soient politiques, philosophiques, religieuses, toutes les opinions sont sur le même plan d'égalité. Donc par exemple, en France, où on aime bien faire des manifestations pour nos droits sociaux, là on est dans la rue, mais les droits sociaux ne sont pas au-dessus, par exemple, d'une croyance religieuse. La loi met vraiment les opinions sur le même plan, qu'elles soient philosophiques, politiques, religieuses. Toutes les opinions des citoyens doivent pouvoir être protégées. Et la Cour européenne, donc c'est juste après, donc c'était pas cité, elle précise bien que la liberté d'expression est l'une des conditions de base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de chaque individu. Donc la Cour européenne, c'est un tribunal européen, donc qui est même au-dessus des tribunaux français. Donc quand la Cour européenne prend une décision, donc en général, c'est lorsque l'État ne respecte pas les droits des citoyens, il est possible pour un citoyen d'aller devant la Cour européenne et elle rend des jugements. Et les jugements, ils ont valeur de droit, de loi, pardon. Donc quand la Cour européenne dit quelque chose, c'est important. Et là, la Cour européenne a dit que le fait de pouvoir respecter la liberté d'expression, c'était une condition de base pour être une démocratie. Donc vraiment, il y a un appui qui est fait de comprendre que la pluralité des opinions, c'est ce qui fait une démocratie. Donc sinon, on n'est plus dans une démocratie. Donc c'est pour ça que nos États européens et même au niveau donc de la Cour européenne, on est très attachés à ces droits-là. Et ce qui est intéressant de savoir, donc comme je vous disais, toutes les opinions sont protégées donc par l'article 10 et aussi des lois nationales ou internationales, mais toutes ces opinions sont protégées par la liberté d'expression, donc de manière générale. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la liberté de religion en tant que telle, elle est protégée elle-même par un droit. Donc on n'a pas, par exemple, un droit, une liberté philosophique ou une liberté sociale. Donc ce n'est pas un droit spécifique. Tout ça, c'est protégé par la liberté d'expression. Mais par contre, la liberté de religion est protégée par un droit spécifique. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. Donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc de 1789, précisait déjà « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Donc tout à l'heure, je disais, il y a quand même des restrictions, même si on est libre de pouvoir exprimer ses opinions, il y a des restrictions. Et les restrictions, quand on entend l'ordre public, on peut se dire, bon, qu'est-ce que c'est l'ordre public ? Finalement, c'est du bon sens, c'est de respecter la sécurité publique. Donc si vous décidez d'exprimer une opinion, qu'elle soit religieuse, politique, philosophique, vous devez veiller à ne pas risquer de commettre un accident ou un dommage à quelqu'un. L'ordre public, c'est aussi le respect de la tranquillité publique, donc c'est le tapage nocturne, les nuisances sonores. Mais l'ordre public, c'est aussi le respect de la salubrité publique, donc l'hygiène, la santé des autres. Donc à partir du moment où vous respectez le cadre des autres personnes, et ça c'est un dicton qu'on dit souvent, la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Donc je pense que je ne me suis pas trompée, oui c'est ça. Donc si vous respectez la liberté de l'autre, vous avez totalement le droit d'exprimer votre liberté et vos opinions. Donc la liberté religieuse, donc je vous disais que c'était un droit qui était encadré lui-même par la Convention européenne, donc c'est dans l'article 9, donc qui dit que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Donc quand on lit cet article, on comprend que la liberté de religion, ça n'est pas qu'une affaire privée. On a le droit de vivre sa religion, sa croyance, également dans le public. Donc souvent, on peut se dire, ah ben non, j'ai pas le droit de parler de ma foi, j'ai pas le droit de l'exprimer, etc. Mais c'est au contraire, et on peut le voir là par la Convention européenne, comme je vous disais, c'est un texte qui est même au-dessus de nos lois françaises, qui vient bien préciser que la liberté de religion se vit aussi en public. Donc c'est important de comprendre que la laïcité, ça n'est pas le fait de restreindre l'expression d'une religion, mais au contraire, c'est de permettre la coexistence pacifique de toutes les religions ensemble. Et ça, c'est l'État qui nous permet de pouvoir vivre tous ensemble et que chacun puisse pouvoir exprimer ses opinions. Donc, comme le disait tout à l'heure Bob, le prosélytisme, on en entend souvent parler, et effectivement, ça a souvent une connotation négative. Mais quand on se souvient de la diapo d'avant, qui nous dit que la liberté de religion doit pouvoir se vivre dans le public, et c'est la liberté de pouvoir manifester sa religion. Alors maintenant, on va se dire, qu'est-ce que c'est que le prosélytisme ? Le prosélytisme, et ça c'est la définition qui est dans le Larousse, hein, c'est de chercher à susciter l'adhésion du public à sa croyance. Donc si on reprend la définition de la liberté d'expression, ben, on peut se dire, et on peut comprendre, que la liberté de religion, ça rentre totalement, le prosélytisme est validé par la définition de la liberté de religion. Alors donc on se dit, bon, le prosélytisme est autorisé. Donc oui, le prosélytisme est autorisé. Par contre, le prosélytisme abusif est interdit. Donc on va voir qu'est-ce que c'est que l'abus dans le prosélytisme. La Cour européenne dont je vous parlais tout à l'heure, donc dans une affaire qui était assez intéressante, donc c'était en Grèce, un témoin de Jéhovah qui est parti parler à sa voisine qui était orthodoxe. Et cette dame, elle n'était pas contente que le témoin de Jéhovah vienne lui parler, donc elle est partie porter plainte. Et en Grèce, le prosélytisme était interdit par la loi. Donc cette personne, donc le témoin de Jéhovah, a été condamné. Et il a dit, ben, moi, je ne suis pas content d'avoir été condamné. J'ai quand même le droit de pouvoir parler de religion avec quelqu'un. Donc il est allé devant la Cour européenne. Et la Cour européenne a considéré que la Grèce a eu tort de condamner cette personne et que la Grèce n'avait pas respecté la liberté de religion de cette personne. Et la Cour européenne est venue dire quelque chose de très intéressant. Il est indispensable de distinguer le témoignage chrétien du prosélytisme abusif. Le premier correspond à la vraie évangélisation. Donc c'est un tribunal qui dit ça. C'est pas... Donc le premier correspond à la vraie évangélisation. Le second en représente la corruption ou la déformation qui ne s'accorde pas avec le respect dû à la liberté de pensée, de conscience et de religion d'autrui. Donc à partir du moment où on respecte l'autre et qu'on n'est pas dans l'abus, donc l'abus ça peut être de mettre des pressions sur quelqu'un pour le forcer à rejoindre notre croyance, ou encore de proposer des avantages matériels ou sociaux à quelqu'un s'il adhère à notre croyance, là la Cour considère que c'est de l'abus et là c'est interdit. Mais à partir du moment où on respecte la liberté de l'autre, on a le droit de partager son opinion. Et d'ailleurs, la Cour européenne, dans la même affaire, est venue dire, donc c'est la diapo suivante, que la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, donc une idée qui ne gêne pas, il n'y a pas de souci, mais elle vient rajouter... Mais la liberté d'expression, c'est aussi valable pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de société démocratique. Donc c'est important de comprendre que même nos pensées, nos opinions, donc que ce soit, donc là elle se prononçait donc sur la liberté d'expression de manière générale, que ça choque, heurte, ou inquiète, ça rentre dans la liberté d'expression et on a le droit d'exprimer ce qu'on pense. Donc voilà pour moi. Merci.
J'aimerais juste être sûr que j'ai compris. Et pour être sûr que j'ai compris, je vais prendre une illustration qui n'est pas de mon vécu, et je pense que ce n'est pas du vécu de quiconque, c'est pour ça que j'ai choisi cette illustration-là. Imaginons que je fasse partie de l'association des amis de la tortue. Hein? Moi et les gens qui pensent comme moi, nous sommes persuadés que les tortues sont très bénéfiques pour l'humanité. Nous pensons par exemple que la présence d'une tortue dans un logement donne un apaisement aux personnes qui habitent dans ce logement. Nous pensons aussi que certaines odeurs émises par la tortue servent à purifier l'air. Donc voilà ce que nous croyons. Si j'ai bien compris, nous pouvons prendre des brochures distribuées sur la voie publique pour dire tout ce que nous pensons de bien sur la tortue. Oui.
Donc oui, on a le droit de distribuer des tracts dans la rue, donc c'est totalement autorisé. Et comme je l'ai dit juste avant, bon là, la tortue, c'est un cas intéressant, mais comme on l'a dit, que ce soit des idées qui choquent, inquiètent ou heurtent, à partir du moment où ce sont nos convictions profondes, on a le droit de les exprimer et on a le droit d'essayer de convaincre les autres. Donc ça rentre totalement dans la liberté d'expression, et la liberté d'expression, c'est aussi la possibilité de distribuer des tracts dans la rue et de pouvoir essayer de convaincre les autres autour de nous.
Okay. J'ai une guitare, je chante un peu, est-ce que je peux préparer et exécuter en public un chant qui dit que les tortues sont nos amis et qu'on a vraiment besoin d'avoir chacun un tortue à la maison?
Oui, c'est possible. Je voulais juste rajouter...
Même avec une sono?
Alors non, pas avec une sono. Alors la sono, justement, donc, vous vous souvenez tout à l'heure quand on a parlé de l'ordre public, donc on a le droit d'exprimer ses convictions comme on veut à partir du moment où ça ne gêne pas les autres. Et dans l'ordre public, on a parlé de la tranquillité publique. Donc une sono, on peut se dire que ça risque de faire des nuisances sonores, du tapage nocturne. Donc pour ça, il faut demander une autorisation pour pouvoir utiliser une sonorisation. Mais si vous voulez chanter dans la rue, c'est possible, il n'y a même pas besoin de demander d'autorisation, vous avez le droit de chanter dans la rue et de parler des tortues, si, voilà.
Okay. Elles sont contentes, les tortues.
Voilà.
Alors, on aimerait aller un peu plus loin dans notre projet. Nous aimerions nous mettre à la sortie du supermarché du coin, et à chaque client qui sort, nous aimerions mettre une tortue dans son sac, parce que nous sommes persuadés que tout le monde a besoin d'avoir une tortue à la maison.
Bon, alors... Je ne suis pas une pro des animaux, peut-être que mon ami Violaine saura un peu mieux, mais je pense qu'au niveau du bien-être des tortues, peut-être qu'il y aurait matière à discuter, mais au-delà de ça, d'imposer à quelqu'un de mettre une tortue dans son sac, là, concrètement, on ne respecte pas l'autre et on atteint à sa propre liberté. Donc non, là, ce n'est pas possible et il y a justement un frein par rapport à ça.
Ok, les voilà. Tortues, merci pour la clarté de ton exposé, Chérine.
Avec
merci
plaisir.
Beaucoup.
Merci.
Donc, les convictions religieuses ou autres peuvent être exprimées, comme Chérine nous a montré, et les convictions religieuses peuvent être exprimées avec la même liberté et dans les mêmes limites que les convictions philosophiques ou alimentaires. Je ne mange pas les tortues. La laïcité, si je comprends bien, c'est donc l'application de ces principes de liberté des opinions à la situation de ceux qui incluent dans leur pensée la notion d'une transcendance, d'un être suprême ou de Dieu. Hein? Alors, nous avons trois invités qui seront témoins sur le terrain de cette laïcité. Et il se trouve qu'ils sont tous du même bord. Ils sont tous du côté chrétien et protestant. La raison pour ça, c'est parce que les organisateurs de la soirée connaissent plus ces gens-là. Mais toute personne qui est présente ce soir peut écouter ces témoignages de terrain et transposer ce qu'elle entend par les exemples concrets pour les appliquer à un groupe religieux ou philosophique auquel on appartient particulièrement. Alors je vais d'abord donner la parole à Franck. Franck Mouquet est ingénieur de formation, de profession, et il va nous parler, j'ai dit comme titre, entre le commissariat et l'hôtel de ville. Bienvenue Franck.
On peut distribuer parfois des tracts pour inviter des gens dans les concessions. C'est vrai que depuis de nombreuses années maintenant, j'ai passé beaucoup de temps dans la rue, dans différents endroits, pour faire connaître la Bible via ce qu'on appelle un stand biblique. Et donc, puisque j'habite dans la région donc, du sud du 92, près de Clamart, j'avais souhaité de toute façon donc installer un stand biblique à Clamart, même dans le centre de Clamart, et c'est là de là d'où vient ta présentation. Le centre de Clamart, c'est bien entendu là où il y a la mairie, il y a une voie piétonnière, et nous avions donc demandé à la mairie de Clamart l'autorisation de mettre un stand biblique dans un endroit où il y a du passage. Alors, la façon dont ça a été demandé et présenté à la mairie, c'est que nous souhaitons, en tant que chrétiens, habitant donc à Clamart, allant dans une église à Clamart, étant de cette région, installer un stand à l'occasion des fêtes chrétiennes, des fêtes qu'on trouve dans le calendrier, hein, toutes ces fêtes, l'Ascension, la Pentecôte, Noël aussi, tout ce qui fait nos jours fériés finalement, depuis tant d'années. Et particulièrement donc à l'occasion de ces fêtes, être en mesure d'expliquer au public qu'est-ce qu'il y a derrière la signification de ces fêtes, à quoi elles correspondent et en quoi elles sont reliées, rattachées à nos croyances. Et bien entendu, surtout donc dans notre présentation de notre stand qui se met donc dans la rue, en quoi ça a un rapport avec la Bible. Nous proposons la Bible. Et donc, depuis quelques années, nous avons donc demandé une première fois pour Noël, ça a commencé ainsi. Et puis, donc, il nous a été, la mairie de Clamart nous a dit oui, c'est d'accord, vous pouvez vous installer là. Il y a une petite négociation pour l'endroit, en effet. Toujours pour des. Par exemple, selon les raisons que tu as expliquées, est-ce que ça gêne? Est-ce qu'il peut y avoir justement cohabitation avec. Il y a un forain en face? Donc, hein, vous avez un manège pour les enfants. À côté, nous avons un vendeur, selon les saisons, hein, un vendeur de friandises ou autre chose. Un peu plus loin, on ne peut pas, parce que c'est l'avenue dans la rue commerçante. Donc, il y a d'autres commerçants forains. Et voilà, donc, nous a accordé une place. Et depuis la dernière fois, par exemple, tout récemment, pour Pâques, on nous a accordé donc de nouveau l'autorisation de le faire. Et on nous a dit qu'on appréciait chez nous notre capacité justement à être là et à ne pas troubler l'ordre public, mais aussi à prendre notre place en toute simplicité. Alors, depuis toutes ces occasions dans lesquelles nous avons pu rencontrer des gens, vraiment toutes sortes de personnes s'arrêtent. Alors, et nous respectons aussi, bien entendu, les opinions de chacun et la décision de chacun. Si une personne ne veut pas, ne discute pas, ce que nous proposons, hein, c'est tout simplement, est-ce que vous connaissez la Bible? Nous proposons des tracts, en effet, comme la loi donc, permet de distribuer librement de la littérature dans la rue. Donc nous le faisons, les personnes acceptent pas, puis nous avons donc toujours la joie de rencontrer des gens, parfois toujours les mêmes aussi, des gens qui n'ont pas les mêmes croyances. Hein. J'apprécie beaucoup de rencontrer à chaque fois une personne qui est un ancien militaire, qui a été communiste, qui est complètement athée, et qui chaque fois qu'il me voit me dit « Ah, je suis content de te voir, parce que je n'ai pas du tout tes croyances, mais je ne peux pas m'empêcher de te trouver sympathique. » C'est plutôt un beau départ. Et donc, avec toutes ces personnes que nous rencontrons, nous avons des relations, nous établissons des discussions, des échanges surtout, et qui sont souvent fructueux pour tout le monde, hein, il faut le reconnaître. Voilà. Donc mon témoignage est assez court, hein, parce que de la même façon que j'avais un stand biblique là, j'en ai aussi un au marché de Sèvres, c'est très différent, vous voyez, c'est d'autres conditions, rencontre d'autres personnes. Alors moi je ne vends quasiment rien quand je suis avec un ami là sur le stand, on a demandé l'autorisation au placier, on a été là. Et c'est d'autres rencontres, d'autres façons de voir, de cohabiter avec les commerçants habituels du marché. Mais nous respectons, nous engageons à respecter toutes les conditions, dont les conditions financières. Hein. Il faut payer pour être présent sur un marché. Mais quand on nous dit que la place est prise, elle est prise. Et voilà. Je ne saurais pas quoi dire de plus. Bob. Oui, je m'en doute.
Franck, je sais que tu participes à quelque chose d'un peu plus important, un peu plus parisien, un peu plus ponctuel et qui dure un peu plus longtemps.
En effet, oui. Comme tu le sais, oui. Je suis organisateur, je fais partie du comité d'organisation de ce qu'on appelle le marathon de la lecture de la Bible, qui a lieu chaque année depuis l'année 2003 sur la place de la Bastille, donc le centre même de Paris. Dans le 11e arrondissement, et donc nous organisons en effet une lecture de la Bible en continu. Alors en continu, ça s'adapte aussi aux conditions, aux disponibilités, au nombre de participants. Par exemple, cette année, elle est organisée pour le week-end de la Pentecôte, donc du samedi au lundi. Et donc là, des gens, des chrétiens un peu évangéliques du bord qu'on connaît, voilà, bon. Mais on a invité plein d'autres personnes à lire, lisent la Bible avec une sono, et nous demandons en effet l'autorisation à la mairie centrale de Paris, l'autorisation de le faire, de nous installer, de prendre un morceau de l'espace public, et puis donc d'inviter, de parler aux gens qui veulent bien s'arrêter pour écouter, ou parfois pour engager une conversation, ou aller un peu plus loin dans la découverte de nos croyances. Et donc ça s'est toujours très bien passé, hein, sauf une année où il y a une incompréhension. La loi française dit que si vous mettez une banderole, quel que soit un endroit, cette banderole constitue de toute façon comme une déclaration commerciale où vous affichez quelque chose, et elle est donc soumise à la loi et donc doit faire aussi l'objet d'une déclaration et d'une autorisation bien spéciale. Et donc une année, on nous a refusé pour ce motif-là, que nous avions une très grande banderole qui était à 7 mètres de haut et qui se voyait de très, très loin. Voilà. Mais bon, à part ça, donc, nous avons toujours eu de bonnes relations avec la mairie centrale de Paris. J'ai encore reçu un courrier d'eux me donnant les conditions qui sont liées au contexte que vous connaissez actuel de vigilance, de sécurité, dans lequel nous sommes tenus, de prendre toutes les précautions qu'il faut pour que si nous accueillons du public ou qu'il y a du public qui passe, bien entendu, on respecte et on s'engage surtout à assurer la protection. Voilà. Et ce marathon de la lecture de la Bible s'est toujours très bien déroulé dans le sens aussi qu'il y a eu des provocations. C'est vrai qu'il y a des gens dans la rue, on peut avoir des frictions, les gens vont penser qu'en effet, il n'est pas possible d'exposer ses convictions, d'être dans la rue, dans les lieux publics pour le faire. Et donc c'est vrai, j'ai été attaqué, on a fait l'objet d'attaques, quelqu'un nous a attaqué au couteau, j'ai été aussi victime de coups, quelqu'un, et dans un cas la police est intervenue, dans l'autre cas, pour le cas du couteau, la police n'est jamais venue. Mais, je vais quand même vous raconter, je vais aller un peu plus loin, cette personne, puisque nous avons un service de sécurité, nous avons pu l'arrêter, nous avons pu lui parler. Et cette personne est repartie en me serrant la main, en ayant rendu son couteau, et en s'étant rendu compte de toute façon que c'était pas, on ne pouvait pas régler les problèmes, ou on ne pouvait pas céder à la violence ou à la colère sans avoir d'abord eu au moins l'occasion d'échanger des mots avec la personne qu'on a en face. Pour moi, ça a toujours été l'importance. J'étais confronté à des gens qui n'ont pas du tout la même religion que moi, et moi, je ne vais pas leur dire que la leur est la meilleure que la mienne. C'est pas ça. J'ai mes convictions, j'ai ma croyance, et je suis prêt à la défendre. Mais je vais toujours la défendre avec respect, amour, intelligence. J'ai laissé parler l'autre aussi. Je ne vais pas non plus essayer de prendre l'ascendant sur lui. Je ne vais pas essayer de dire « Écoute-moi, écoute-moi, j'ai la vérité, et la seule, tais-toi, écoute-moi ». Non, non, je pense que c'est vraiment important de passer du temps ensemble. Et si chacun peut parler et donc échanger, on a accompli déjà un grand pas. Voilà.
Merci beaucoup, Franck.
Merci.
Merci. Donc là, nous avons un témoignage de terrain à l'air libre, en quelque sorte. Maintenant, je vais passer la parole à quelqu'un qui va nous donner un témoignage de terrain qui est, entre autres, par rapport à un espace confiné, mais un espace symboliquement assez fort. Je vais passer la parole à Bernard Journeau, que plusieurs connaissent, parce que lui n'est pas simplement un chrétien protestant, c'est un professionnel. C'est un collègue à moi, nous sommes pasteurs tous les deux. Alors, Bernard, vas-y, raconte.
Merci et bonsoir à chacun. Je crois que c'est important de pouvoir échanger sur ces sujets. Juste avant de donner un petit mot, je pensais à la question de troubles à l'ordre public. Moi, je l'ai vécu personnellement dans bien des années en arrière où nous exprimions notre témoignage sur le Trocadéro et cette place qui est très fréquentée. Et comme il y a beaucoup de monde, il est facile d'avoir des attroupements qui rassemblent 100-150 personnes. Et un jour, lors de ces rassemblements, l'idée qu'on avait, c'était simplement de chanter, de témoigner, et puis d'échanger avec les gens qui étaient là. Et un jour, un agent en civil est venu et s'est planté devant moi en disant je vous demande de vous disperser. Parce qu'effectivement, il y avait au moins 150 personnes. Et donc la chose, ça s'est terminée simplement comme ça. On a parlé avec l'agent et je me suis adressé à la foule en disant voilà, l'agent nous demande de vous disperser pour ne pas occasionner l'ordre, le trouble à l'ordre public. Mais je vais continuer le témoignage. Donc je vous demande de vous disperser pour ne pas créer le trouble, mais il ne peut pas m'interdire de continuer de faire le témoignage. Et on a continué simplement, les gens parce qu'il y avait une piste de skate, de skate et de roller qui passait juste à côté, c'était pour un peu nous déplacer. Et on s'est arrangé comme ça. Donc il y a toujours des solutions, on peut toujours trouver des solutions dans lesquelles on peut chacun s'y retrouver. Voilà, mon intervention, elle est dans ce cadre de ce thème, une laïcité heureuse, et je veux la décliner en trois points, et en particulier avec notre vécu dans la ville d'Épinay. La première chose, je ferai un point sur la ville d'Épinay-sur-Seine, donc on est toujours sur le 93, mais à l'autre bout. Une deuxième, c'est le travail interreligieux que nous avons entrepris et auquel on est confronté aussi. Et la troisième, c'est les relations avec les autorités civiles et en particulier avec comment gérer ou occuper ou prêter des espaces publics que chacun est appelé à voir, dans lesquels on peut utiliser pour ses propres activités. D'abord, la situation de la ville d'Épinay dans sa composante religieuse. Comme a été définie la notion de laïcité, elle est là pour permettre l'expression des diverses croyances dans la sphère publique. Trop souvent, on a voulu cantonner la foi à une question privée parce qu'elle s'adresse au cœur de la personne. Mais le témoignage est toujours public. On se témoigne pas à soi-même. On n'est pas narcissique dans notre démarche. Elle est faite de pouvoir témoigner à d'autres de ce que nous vivons. Épinay-sur-Seine est une ville de plus de 50 000 habitants. Je ne sais pas, ici à Rony, puisqu'un représentant de la mairie est là. Pas bien long ici, hein ? Ça va venir. J'ai pas vu trop de construction, mais voilà. Si ? Ah bon ? Mais les pratiques religieuses à Épinay sont très vivantes et elles sont très visibles sur le terrain. La communauté musulmane est certainement la plus représentée, avec une population, je pourrais dire quasiment de 50% de la population se dit être musulman. Mais c'est la communauté chrétienne et de toute tendance confondue, toute dénomination, qui est la plus visible, puisqu'il y a environ 10 lieux, pas environ, il y a 10 lieux de culte connus, dont 6 protestants évangéliques. Ensuite vient la communauté musulmane avec 3 lieux de culte connus, là aussi, hein, il y a tout ce qui est aussi souterrain, mais 3 lieux de culte connus. Puis vient la communauté juive avec 3 lieux de culte connus plus une yeshiva. Et il y a 4 lieux religieux connus qui sont le temple des témoins de Jéhovah, le temple du christianisme céleste, le temple du culte kimbanguiste. On entend de temps en temps, en particulier, je crois qu'on arrive vers le centenaire, le Kimbangu, et le culte des Branhamistes, pas Brahmamistes, mais Branhamistes de William Branham. Sans compter les écoles confessionnelles, sous contrat ou non. Et en faisant un petit peu cet inventaire, je crois qu'on peut, à l'évocation de ces croyances et de ces lieux de culte, pour une seule ville, on peut se mettre à la place des élus, et souvent qu'ils ne savent pas toujours à qui ils ont affaire et vers quoi ils doivent aller. Et si on se mettait un petit peu à leur place, on pourrait comprendre parfois leur interrogation, voire leur interpellation, puisqu'ils ont la charge de laisser à chacun la possibilité de vivre son culte et d'exprimer sa foi d'une façon décente et en sécurité. Et on a confronté cela, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une quinzaine d'années, quand on parlait de l'islam des caves, et j'avais répondu à ce moment-là au maire d'Épinay, mais n'oubliez pas les évangéliques des greniers. Et quelque part, il fallait aussi s'attendre à avoir cette ouverture-là. Et l'ouverture s'est faite. Ça, c'est la ville d'Épinay, un peu comme elle est placée. La deuxième chose, c'est le travail interreligieux que nous avons, nous, entrepris. Pour vivre une laïcité heureuse, nous ne pouvons pas nier l'existence des autres, ni de leurs croyances. Et nous devons apprendre à les connaître pour pouvoir les respecter en tant que personnes. Nous avons démarré à Épinay, dans ce coin de banlieue, en ouvrant une librairie. Pour ceux qui me connaissent, je suis pasteur et j'ai plutôt une dimension pastorale que d'évangéliste, que de proclamer aux foules. Et nous avons ouvert une librairie sous la forme d'un commerce, avec ce désir d'avoir un lieu ouvert sur la ville, mais aussi pour enrichir les habitants de la ville, pour trouver de la littérature, on avait de la carterie, trouver de la musique, qu'elle soit chrétienne ou autre. Il y avait d'autres choses aussi, et des films qui étaient, il y avait les DVD encore, et pas les DVD, qu'est-ce que c'était avant les DVD ? Les vidéos, les cassettes vidéo, on a déjà oublié, les cassettes vidéo, c'était toujours un moyen de pouvoir apporter, mettre à la connaissance et à la portée des habitants d'Épinay quelque chose qu'ils ne trouvaient pas dans le cadre de la ville. Et ce lieu qui était ouvert sur la ville nous a entraînés dans une relation aux autres et avec une capacité de pouvoir échanger et dans cet échange, bien sûr, d'écouter. Une des premières personnes qui est entrée dans notre boutique, c'est le curé de la paroisse d'à côté. Et il est arrivé, il m'a déclaré de tout de go, « Monsieur, c'est vous qui rebaptisez les gens ?» Alors ma réponse ne s'est pas fait trop attendre et je lui ai répondu, « Mais cela dépend de quel baptême vous parlez. » Et ça nous a amené dans une discussion de savoir mais qui nous étions les uns les autres. Et suite à cet échange-là, dans cette librairie, on a commencé de mettre en place des conférences, c'était conférence, mi-conférence, mi-enseignement biblique, mais autour de la Bible et sur nos pratiques, sur notre foi et sur nos pratiques et nos divergences. Et on s'est rendu compte que certains croyaient certaines choses quand on est revenu, bien sûr, cette question du pratique du baptême, et pourquoi, puis quand on a défini pourquoi les uns voyaient le baptême de cette manière-là et les autres le voyaient d'une autre manière, chacun s'est dit, mais oui, il y a une part de quelque chose de vrai dans ces choses-là. Et c'est ainsi qu'a commencé un travail relationnel. Le deuxième groupe qui est venu à la librairie, eh bien, c'est les témoins de Jéhovah. Moi, je les appelle les TJ. Je ne sais pas s'il y en a au milieu de nous ici, hein, mais les témoins de Jéhovah. Alors, ils sont venus, eux, plus pour vouloir nous convaincre que nous étions dans l'erreur de la manière dont nous croyons que de pour nous acheter des livres. Hein. La troisième groupe qui est venue, c'est les fidèles de la communauté de William Branham, qui étaient, eux, furieux. Parce qu'il y a deux livres qui existent dans la littérature protestante évangélique qui classent ce mouvement-là parmi les sectes, et d'un auteur belge, je crois. Et il y avait ces deux livres dans la librairie à la disposition de leurs fidèles, ou alors c'était le sacrilège de pouvoir les classer parmi les sectes. Ça nous a donné aussi, avec l'ouverture de cette librairie sur l'espace public, d'avoir contact avec les autres chrétiens de la ville, et en particulier les autres communautés chrétiennes, qu'elles soient catholiques, protestantes, orthodoxes. Et c'est comme ça qu'un travail interreligieux s'est fait. Plus tard, et je dirais une année ou deux plus tard, est intervenue la communauté musulmane. Et c'est eux qui sont venus à notre rencontre pour savoir qui on était, pour comprendre nos différences par rapport à ceux avec qui ils avaient l'habitude de traiter, qui était le milieu catholique. Et ils ont commencé par me poser des questions, à savoir, mais qu'est-ce que vous dites de Marie ? Qu'est-ce que vous dites de cette histoire, de cette Trinité ? Et ils voulaient en savoir un peu plus. Et c'est comme ça qu'on a eu un échange avec la communauté musulmane, qui s'est transformée, je dirais, en des invitations, comment on pourrait, des invitations courtoises, de courtoisie. Eux nous invitaient pour fêter l'Aïd ou pour la rupture du jeûne dans la période du Ramadan, et nous, nous les invitions pour des conférences telles que celle-là, et en particulier sur l'éducation, le travail dans les quartiers, des choses comme ça. Et chacun d'entre nous, ben, respections les invitations et nous nous rendions aux uns et aux autres. Et ça a pris une autre dimension avec l'évolution un peu géopolitique mondiale, avec l'irruption d'un islam fondamentaliste et les violences qui l'ont accompagné, qui sont sans suivi. Sur la ville d'Épinay, on a eu des problèmes avec la question du GIA algérien, puisqu'on a eu dans les salles de prière de l'armement qui circulait. Et donc à ce moment-là, il y a eu des tensions qui ont été fortes. Mais je fais référence plutôt aux événements, les derniers événements ici, et c'est la communauté musulmane, à leur initiative, qui ont rassemblé tous les représentants religieux de la ville pour parler de ce qu'ils vivaient en interne. Et parce que nous, on voyait ça de l'extérieur, et on aurait vite fait de mettre des étiquettes sur tous les barbus étant des extrémistes. Et ils nous ont interpellés, parce que pour eux aussi, dans leur propre communauté, il y avait véritablement des difficultés à se situer par rapport à ce qui se passait. Et suite à cela, l'ensemble des responsables religieux de la ville, nous avons rédigé un communiqué de presse diffusé dans la ville, ensuite sur les réseaux sociaux, en faveur d'un vivre ensemble paisible à Épinay, d'où la laïcité heureuse. Cela n'a pas été de soi, car en même temps, l'émergence de signes religieux, faut-il dire ostentatoires, mais de signes religieux de la part de la communauté musulmane commençait à devenir de plus en plus visible dans la sphère publique. Et il faut le dire qu'ils ont été parfois ressentis comme une agression par certains des membres de nos communautés ou en tout cas des autres religions. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir il y a 10 ans en arrière des hommes en djellaba ou autre au moment de la prière aller dans la tenue vestimentaire pour la prière dans les rues. Et c'est vrai que pour certains c'était des choses un peu choquantes. Est apparu dans les cours d'école un discours, et d'où on ne sait pas trop d'où ça vient, mais que les petits musulmans disaient aux chrétiens, mais vous avez falsifié les écritures, vous avez trahi vos origines. Et ce genre de choses, quand ils remontent après par les enfants, on peut se poser des questions. Et ça a suscité ce genre un peu de tension, et qu'il a fallu aussi répondre. Et c'est au travers de notre dialogue avec les responsables des communautés que nous avons pu échanger. Nous n'avons pas résolu le problème, mais nous avons pu dire ce qui était ressenti d'un côté ou de l'autre. Alors, ça a continué, parce que voyant que tout n'était pas si simple dans le vivre ensemble de la ville, on a préféré garder des relations, continuer d'avoir des relations entre les responsables des communautés, de façon à ce que les liens soient là au cas où on aurait des choses à se dire, et les invitations continuent, et on continue de se rendre les uns chez les autres, de façon à parler assez des problèmes, ou en tout cas de ce qui nous touche dans nos communautés, et de voir aussi ce que eux les touchent. Et j'en viens maintenant à ma troisième partie, et qui est la relation avec les autorités civiles et l'occupation d'espaces publics par les communautés religieuses. Et je veux simplement vous lire ici la lettre de M. le maire, qu'il envoie à toutes les communautés. C'est un peu, pas une lettre circulaire, mais un petit peu dans ce sens-là, où il dit simplement ceci. Monsieur le pasteur, alors que le carême touche à sa fin, donc c'était juste avant Pâques, je vous souhaite une bonne fête de Pâques. C'est pour vous donner la tonalité des pouvoirs publics, en tout cas à Épinay, hein, je ne mets pas en relation avec ce que vous pourriez vivre ici à Rosny. En tant que maire d'Épinay-sur-Seine, je me joins aux élus pour vous adresser mes vœux de paix et de tolérance dans cet instant de célébration. Je veux vous assurer de mon soutien à un moment où plus que jamais, nous devons créer l'harmonie dans un monde de plus en plus en proie au désarroi. La richesse spirituelle de notre ville permet de vivre en sérénité ces instants. Nous nous efforçons à vos côtés à toujours privilégier le dialogue interreligieux et le vivre ensemble. Épinay-sur-Seine est une ville multiconfessionnelle et qui a toujours su chérir ce qui privilégie l'amour du prochain à la désunion. Je vous remercie de porter cette lettre à la connaissance de votre communauté de croyants et de les assurer de ma sympathie ainsi que de mon soutien de la municipalité, vous renouvelant mes bons voeux de Pâques. Voilà la tonalité du côté de la municipalité. Suite à nos rencontres bibliques avec la communauté catholique, nous avons mis en place d'une façon commune une matinée publique qui avait lieu, je le mets au passé parce qu'on a évolué, mais qui avait lieu en général la deuxième quinzaine du mois de janvier, un matin, et que nous avions appelé les vœux des communautés chrétiennes aux acteurs de la vie publique, politique, sociale et professionnelle. Et c'était autour d'une conférence et on invitait tous les acteurs de la ville à venir aux vœux des églises chrétiennes. Comme certainement ici la municipalité le fait aussi, le maire invite aux vœux du conseil municipal l'ensemble des habitants de la ville. Et ça se terminait, comme on le fait pour du côté politique, par le verre de l'amitié, et ça permettait de construire des échanges. L'année des élections, vous pouvez y penser que tout le monde était là pour entendre, nous voir et serrer la main, et puis les quatre ou cinq années suivantes, il y avait quelques représentants qui venaient. Mais tout ça a permis de tisser pas simplement des liens relationnels, mais aussi de confiance, pour savoir qui nous étions et ce que nous représentions. Ça a duré pendant 6 ans. Par la suite, nos rencontres ont évolué et nous avons commencé d'organiser des concerts de gospel dans justement la salle de spectacle de la ville, cette salle qui contient plus de 1000 places, qui est intitulée l'espace Lumière, elle porte bien son nom, et que la ville met à notre disposition une fois par an. Le comité d'organisation de ces concerts est formé de tous les représentants des communautés chrétiennes, en particulier protestantes et évangéliques, mais la communication va aussi vers la communauté musulmane, la communauté juive et la communauté catholique en particulier. De leur côté, la communauté musulmane a, ce qu'on a vu là par là, une possibilité, mais a aussi sollicité la mairie pour pouvoir fêter une fois dans l'année une grande fête dans cet espace, dans ce lieu, l'espace Lumière. Et c'est ainsi que là qu'ils fêtent l'Aïd. Et de la même manière, ils nous invitent, toutes les communautés religieuses de la ville sont invitées à fêter l'Aïd. Et avec eux, alors bien sûr dans les limites aussi des croyances, les croyances sont respectées à ce niveau-là. Voyant se développer ce genre de rencontres dans cet espace, donc l'espace Lumière, ces rencontres de type religieux, dans cette salle de spectacle, la communauté catholique a aussi sollicité cet espace pour, une fois par an, célébrer une messe autour de son évêque, et qui est en général une messe de rentrée à l'automne. Et dans les mêmes périodes, les témoins de Jéhovah, eux aussi, se rassemblent dans ce lieu-là pour célébrer le lundi de Pâques, je ne me souviens plus comment ils appellent ça, mais ce temps de célébration. Et c'est de cette manière-là que je crois que la mairie à Épinay a favorisé le vivre ensemble. Elle aurait pu se bloquer en disant « niette » et à quelque part « non, on prête ni aux uns ni aux autres et comme ça on n'a pas de problème ». Mais il faut reconnaître que c'est de cette manière-là qu'elle a favorisé les échanges entre les communautés religieuses. Et cette expression publique et libre a permis à des gens de venir écouter, voire entendre, ce qu'ils n'auraient jamais entendu, jamais vu, jamais écouté, si ça serait été fait uniquement dans un lieu d'ordre culturel comme ici. C'est vrai que du côté de la mairie, ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas été du goût de tout le monde, et il a fallu une certaine intelligence pour manœuvrer là au milieu et de faire évoluer les choses d'une façon favorable. Mais j'aimerais quand même dire qu'il y a une contrepartie, si je peux dire, à tout ça. En tant que communauté chrétienne sur Épinay, nous considérons la mairie et ses services comme un réel partenaire et vice-versa dans la ville. Par le biais de notre association culturelle, comme celle qui organise ce soir la rencontre, deux de nos membres tiennent une permanence d'écrivain public, au même titre que le CCAS et d'autres associations, dans nos locaux, le mercredi matin, tous les 15 jours, et les dates figurent sur le mensuel de la mairie qui sort tous les mois. Nous avons une deuxième équipe de 6 personnes qui assure l'aide aux devoirs tous les samedis après-midi de 14h à 16h, en dehors des vacances scolaires, dans le cadre de la médiathèque de la ville. C'est un partenariat avec la médiathèque de la ville et où il y a une place qui est mise à côté avec des tables et où on reçoit des élèves et il y a là un travail d'aide aux devoirs qui se fait. Nous avons aussi été partenaires pour la mise en place d'une épicerie sociale que la ville gère et à ce jour, notre communauté donne 3 demi-journées par semaine pour satisfaire le fonctionnement de cette épicerie sociale. Voilà un petit peu les engagements que nous avons et en contrepartie, à quelque part, ça donne aussi une visibilité dans la ville. Il me semble la chose qui est importante, c'est comment nous considérons, nous, notre prochain. Si, à quelque part, nous sommes concernés par tout être qui vit sur la commune, autour de nous, et dans lequel nous voulons aussi nous investir, eh bien, voilà ce genre de choses qui nous permet d'être actifs et d'avoir une visibilité et d'être un vrai témoin dans la ville. Juste dire une chose, alors qu'il y a peut-être plus d'ordre chrétien, nous confessons que Jésus-Christ vit en nous par son esprit. Mais si nous n'allons pas dans ces endroits-là, Jésus-Christ n'y est pas non plus. Et je crois qu'il faut aussi qu'on entende ce genre de choses. Merci.
J'ai dit, 3 témoins de terrain. Le troisième est pasteur aussi, Gilbert Léonian, né à Marseille, actuellement en poste en région parisienne. Il ne sera pas là parce que justement, une des villes où il travaille en église, la ville d'Arnouville, en Val-de-Marne, je pense, l'a invité pour participer à la nuit arménienne. C'est le samedi le plus proche de la date anniversaire du début des massacres des Arméniens en 1915. Et à ce titre, toutes les associations arméniennes d'Arnouville sont invitées à avoir un stand et à prendre la parole. Et c'est le cas pour l'église arménienne d'Arnouville. Donc Gilbert lui-même n'est pas là, mais je l'ai interviewé parce que je voulais qu'il parle de son vécu de longue durée quand il a grandi à Marseille, quand il était pasteur à Marseille. Alors, Marseille, on connaît pour son côté sans chaud, son côté violence toujours possible. Mais vous avez peut-être remarqué, moi ça m'a frappé pendant les 12 ans qu'on était là et puis depuis, il n'y a jamais eu, jusqu'à un exemple récemment, je ne parle pas des arrestations il y a quelques jours, mais un exemple récemment est le seul, à ma connaissance, de sérieuses frictions interreligieuses. Marseille n'a pas connu ces choses-là. Et j'ai demandé à Gilbert pourquoi. Et voilà un peu de sa réponse. Il a dit, Marseille, c'est très spécial, deuxième ville de France, hein, pour ceux qui ne sont pas lyonnais. Marseille compte 200 000 musulmans du Maghreb, 80 000 arméniens, 80 000 juifs, notamment d'Afrique du Nord, et 100 000 comoriens, ce qui fait que Marseille est la cinquième île des Comores. Dans tout ça, il y a, par exemple, Marseille-Espérance, qui regroupe, vous reconnaissez peut-être le monsieur au milieu, c'est le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Marseille-Espérance, depuis les années 90, regroupe les responsables des communautés religieuses de la ville pour parler d'autre chose que de religion, mais pour prendre position ensemble si c'est nécessaire à cause des difficultés dans la ville et pour éditer un calendrier intercommunautaire avec les fêtes de toutes les communautés religieuses et pour organiser un gala chaque année dans une grande salle de théâtre de la ville. C'est une des choses qui font, selon Gilbert Léonian, que ça marche et que les rassemblements religieux spécifiques, ils pensent notamment les rassemblements chrétiens, puisse avoir lieu. Une marche de témoignage, la marche pour Jésus, est un événement régulier qui n'a aucun problème avec les autres habitants de Marseille. On a fait venir un évangéliste, ce que Bernard Journeau n'est pas apparemment, un Sud-Américain, Luis Palau, qui a conduit une semaine de rencontres sur la plage de Marseille où il y a eu des bagarres rangées au moment de la Coupe du Monde. Mais lors des cérémonies d'évangélisation, il n'y a eu aucune friction avec les autres membres de la population. Alors, quel est le secret de Marseille? Gilbert nous dit ceci. La plupart des personnes qu'il connaît à Marseille font partie d'une communauté qui a connu l'exil. Les gens qui ont tout perdu, qui ont dû tout recommencer quelque part, et donc qui étaient obligés de s'entendre, de s'entraider, de vivre ensemble. Une autre partie du secret, en tout cas pour le travail de Gilbert, c'est un peu ce que disait Bernard par rapport à fait d'être inséré dans le travail social de la ville. Il y a un quartier très chaud à Marseille que je connais qui s'appelle Herbel, et c'est à Herbel que l'église arménienne dont Gilbert était pasteur a commencé tout un travail social, écrivain public, aide aux devoirs, bon, tu connais par cœur tout ça. Ils ont fait ça pour être présents. Et puis Gilbert termine en disant deux choses. La première, ne pas mettre Jésus à toutes les sauces, être capable de parler d'autre chose avec ses voisins. Et puis, quand on parle de sa foi, la formule que Gilbert préconise, c'est de parler un peu, voilà ce que je suis, voilà ce qui compte pour moi, voilà ce qui m'a fait du bien. Je pense que ça pourrait vous faire du bien aussi, mais c'est vous qui voyez. Voilà donc un petit peu l'expérience de Gilbert Léognan. J'ajoute juste une anecdote qui est toute récente. Vous imaginez que quand on s'appelle Léognan, on connaît un rayon sur la persécution religieuse de 1915, par exemple. Mais plus récemment, très récemment, le 2 avril dernier, à 6 heures du matin, Gilbert et sa femme, qui habitent le logement de fonction au-dessus de la salle de culte, ont été réveillés à 6 heures par les flammes et la fumée d'un incendie volontaire qui avait été commencé sur leur lieu culturel. Des personnes ont fait exprès de prendre une poubelle, de sauter le grillage du site, de remplir la poubelle de produits de liquide inflammable et de mettre le feu. Et c'est parce qu'ils se sont réveillés que Gilbert a pu me raconter cette histoire. Je dis ça juste pour dire qu'on peut toujours faire mieux dans l'entente interreligieuse, mais nous pouvons aussi être très heureux pour ce que nous avons déjà acquis, parce que ça pourrait être pire. Donc, merci à nos témoins de terrain et à notre juriste. Je vais vous demander de prendre place ici à table.
Parce que la parole est maintenant à vous.
Merci beaucoup. Je vous donne la parole.
Avant de partir, je voulais donc rajouter un petit mot sur ce que j'ai entendu. Notamment donc concernant bien sûr Épinay, que je connais bien, dont je connais bien le maire, puisque je suis dans un syndicat avec lui, et ça ne m'étonne pas donc effectivement que cette tournure puisse s'imposer, puisse s'organiser sur la ville et sous son autorité. Bon, il n'y a qu'un point sur lequel je ne suis pas d'accord, je ne vois pas M. Chevreau dire niet,
mais ceci est dans le micro, s'il vous plaît.
Voilà, je ne vois pas M. Chevreau dire niet, mais c'est simplement une boutade. Je pense qu'à Rosny-sous-Bois, donc il n'y a pas très longtemps, on a peut-être posé une première pierre de cette démarche-là, dans cette rencontre donc, qui a été organisée et qui a mis donc, en présence l'ensemble des communautés rhônéennes, de façon à effectivement réfléchir plus en profondeur et essayer d'imaginer. Donc d'atteindre, de se donner l'objectif, effectivement, de cette forme de relation interconfessionnelle dont la ville, et notamment les villes de Seine-Saint-Denis aujourd'hui, ont fortement besoin. Donc c'est un très bon exemple. Je pense qu'on va tous pouvoir s'attacher donc, à essayer de progresser donc, dans cette forme donc, de relation, de cette forme de partenariat, puisque c'est le terme qui a été posé, La responsabilité d'une collectivité, elle se met en place effectivement quand il y a trouble de l'ordre public. C'est bien, mais on a tous bien compris qu'il fallait effectivement, à partir du moment où on respecte effectivement ses limites, il n'y a pas d'objection qui puisse se caractériser d'une municipalité à s'opposer effectivement à ce que les idées des uns et des autres soient échangées, même en lieu public. Moi, je le conçois assez bien. À partir du moment où, quand il y a un grand rassemblement, c'est dans l'exemple, ça doit nécessairement faire nécessairement le besoin d'une déclaration, parce que la responsabilité de la sphère publique reste quand même à la collectivité, et donc un rassemblement doit mobiliser une certaine organisation de prévention, mais c'est le seul point sur lequel, cette précaution étant prise, rien ne s'oppose à ce qu'on puisse donc effectivement constituer des pôles d'échange, et c'est même très très important de pouvoir progresser dans ce sens-là. Donc j'espère et donc je souhaite que, je ne sais pas s'il y a eu quelques suites à nos rencontres. Alors, mais c'est comme toute situation, il faut pas rester dans l'attente. Donc ça me paraît important, effectivement, parce que ça a bien été posé. Il y a même un nombre d'échanges sur le moment se sont faits, et ça s'est passé dans très très bonnes conditions. Donc si vous sentez que ça ne vient pas, il faut nous rappeler, ou tout au moins...
Je prends donc l'occasion de vous dire que je pense que le maire a marqué un bel essai en novembre, et nous lui demandons de le convertir.
Eh bien, écoutez, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas peut-être que la situation... La situation générale, et peut-être un peu politique aussi du moment, a fait qu'on n'a pas pu s'attacher beaucoup plus donc à essayer de continuer à construire donc cette situation, mais ça se fera.
Très bien.
Voilà.
Très bien.
Je vous souhaite une
vous
bonne
êtes enregistré, vous êtes sur notre site web pour
Il n'y a pas de problème. Aucun problème, je n'ai pas de soucis sur ce sujet-là.
Excellent.
Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Merci.
Et que votre soirée soit riche et intéressante et profitable à tout le monde.
Merci beaucoup. Voilà, à partir de maintenant, nous n'enregistrons pas.